Quotidien avec Hélène Denis.
Une belle journée printanière, du soleil, de la chaleur. On veut que ça dure, mais en tout cas, on va en profiter pendant que ça passe. N'est-ce pas Mathieu qui rigole,
oui.
Qui rit dans sa barbe?
Oui.
Alors, aujourd'hui, au menu, on a de bons invités avec nous, ben, comme toujours, hein, des contenus assez intéressants et même plus que assez. Aujourd'hui, on va parler avec Marguerite Blais, personnalité publique bien connue, ancienne ministre responsable des aînés des proches aidants, ainsi que Guillaume Nadon, ancien attaché politique et maintenant coordonnateur du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Tous les deux viennent nous présenter le livre Marguerite Blais au nom des aînés, publié aux éditions Libre Expression. Nous aurons également Émilie Bouchard, la bonté, directrice générale adjointe d'Altergo, pour sa chronique hebdomadaire sur le 43e défi sportif Altergo, qui s'ouvre bientôt le 23 avril. La chronique parasport avec Dominique Tremblay, qui va nous raconter l'histoire, l'origine du basketball en fauteuil roulant. Et c'est toujours avec plaisir qu'on retrouve nos chroniqueurs du jeudi, Yvan Deslauriers et Monique Kirouac. Bonjour!
Bonjour, chères auditrices et auditeurs, et bien sûr, à vous en studio.
Merci beaucoup.
Bonjour Mathieu, bonjour Hélène.
Bonjour, bonjour. Alors, présentez-nous vos sujets. Yvan, vous nous amenez à l'église, mais pas pour aller prier.
Ça dépend.
Ah!
Ça dépend comment vous jouez au pickleball.
Oui, c'est vrai qu'on peut faire notre signe de croix pour gagner.
Oui, des fois, une petite prière, ça peut aider aussi. Alors, j'en avais déjà parlé en ondes du pickleball. Je m'y suis initié dernièrement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça.
Ouais.
Et là, j'ai lu deux articles presque en même temps parce que c'est sur la même situation, sur une église qu'on considère convertir en salle de pickleball. Donc, on sait qu'au Québec, il y a plusieurs églises qui sont désaffectées. C'est des édifices qui sont énormes à maintenir et souvent ne sont pas maintenus, ne sont pas entretenus, excusez-moi. Alors, c'est peut-être une avenue intéressante, ça.
On va essayer de vous croire, on va vous écouter. En tout cas, ça pique notre curiosité, ça c'est sûr. Et puis Monique, vous allez parler de la fibre québécoise.
Oui, pas n'importe laquelle. Peut-être que vous êtes comme moi, Hélène, et nos auditeurs, certainement. On se demande quel petit geste poser pour, contribuer au développement durable de notre planète. Et c'est pour répondre peut-être un peu à cette question que je vais vous parler de fibres québécoises, mais je parle de vraies fibres là. Je parle de la laine et de fibres végétales comme le lin, le chanvre et l'esclépiade. Il semblerait qu'au Québec, on valorise très peu ces fibres, alors que le développement durable offrirait pour le développement durable une réponse bien intéressante. Alors, il faut développer une meilleure connaissance relative aux vêtements qu'on achète et à l'impact environnemental que notre consommation, peut-être trop aveugle, engendre. Et c'est une chercheure de l'Université du Québec à Montréal qui s'appelle Marie-Ève Faust qui a donné une entrevue à Raphaël de Rome pour Québec Science. Et je vais vous raconter donc l'histoire, triste histoire de nos fibres.
De bons sujets, quoi. Merci beaucoup, Monique.
Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again.
On the road again, again.
va, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Nous étions jeunes et larges des peaux. On attendait que la mort nous frôle. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus lourd. On the road again, again. 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 On the road again.
Bernard Lavillier, sa chanson « On the road again ».
À la une de la presse plus, surdose, un tranquillisant pour chevaux fait des dégâts. Mélangé au fentanyl, un puissant sédatif a envahi les rues de Montréal. La médétomidine provoque des sevrages foudroyants, réfractaires au traitement habituel et fait redouter une grosse déferlante d'hospitalisation. Tout ça est extrêmement préoccupant, inquiétant, effrayant. On voit à la une de la presse Éric Vaillancourt qui a été hospitalisé au CHUM durant plusieurs semaines. Lui qui a été victime d'un infarctus, il a frôlé la mort et frôler est un mot très faible. C'est un dossier à lire dans la presse, signé Gabriel Duchesne et Martin Tremblay. Également, la baisse, c'est pour quand? Prix à la pompe et trêve. Le prix du pétrole brut a chuté de 15 % mercredi après la trêve qui a suivi les menaces apocalyptiques du président américain contre l'Iran. Faut-il s'attendre à une baisse prochaine des prix à la pompe? Probablement. Le porte-parole de CAA Québec, qui suit de près l'évolution du prix de l'essence au détail, répond à cette question par l'affirmative. On devrait s'attendre à une baisse du prix du litre si la désescalade tient, nuance Nicolas Ryan. Et puis, course à la CAQ, c'est dimanche qu'on saura qui deviendra le chef de la CAQ entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. Dernière ligne droite, les deux candidats dressent leur bilan dans la presse d'aujourd'hui. Fréchette mise sur l'unité et une offre renouvelée. Drainville croit que le vent tourne en sa faveur. Également, on parle de théâtre à la une de la presse « Frère » de Nathalie Doumar, une déclaration d'amour aux hommes. Après avoir conquis critique et public avec sa pièce « Mama », Nathalie Doumar remet ça en donnant cette fois la parole à une distribution entièrement masculine. Entre les deux projets, une constante, le texte s'enracine dans le riche terreau de la famille moyenne orientale. Et cette fois, donc, pour Frère, elle a imaginé un huis clos, comme dans Mama, où 8 hommes se retrouvent pour un week-end dans un chalet de Kakuna. Ils sont frères, cousins, fils, beaux-frères du présent ou du passé. Ils ont chacun leurs préoccupations, leurs valeurs, mais ils s'aiment d'un amour indéfectible. Et quand le sort s'acharnera sur l'un d'entre eux, ils se serreront les coudes. Bien hâte de voir cette pièce qui prend l'affiche la semaine prochaine au Théâtre du CEP. Et à la une du Devoir, une histoire très triste et encore une fois inquiétante. Des semaines avant de parler à un enquêteur après avoir rapporté un viol, une Montréalaise qui s'est confiée au Devoir ne serait pas la seule dans cette situation, selon un organisme de prévention des agressions sexuelles. Il pourrait s'écouler des semaines, voire des mois, avant qu'un enquêteur de police ne la contacte. Voilà ce que s'est fait dire Mia, nous utilisons un nom d'emprunt pour protéger son identité, après qu'elle eut rapporté avoir été agressée sexuellement à Montréal. Elle ne serait pas la seule dans cette situation, selon un organisme qui œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel. Mia a appelé la police dès le lendemain de son agression. Une agente du service de police de la ville de Montréal est venue la chercher pour l'accompagner à l'hôpital afin d'effectuer l'examen médico-légal visant à recueillir des preuves biologiques du viol dont elle se dit victime. Son corps garde des ecchymoses de l'agression, rapporte la jeune femme de 24 ans qui dit être très anxieuse. Mia veut savoir ce qui va se passer par la suite. La policière lui explique qu'un enquêteur sera éventuellement affecté à son dossier, mais on lui dit que cela pourrait prendre du temps. Des semaines même, rapporte la jeune femme en entrevue avec Le Devoir. Ce délai l'inquiète terriblement car elle a peur de l'individu qui l'a agressée chez elle et qui sait donc où elle habite, confie-t-elle en entrevue. Elle sent le besoin d'être protégée. Elle dit que le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, l'a aidée. Il lui a suggéré de se rendre au palais de justice afin de demander une ordonnance de protection, un 810 dans le jargon judiciaire. La procédure permet d'imposer des interdictions de contact sans que des procédures criminelles soient intentées contre un individu. Plus de deux semaines après l'agression alléguée, elle est toujours sans nouvelles et n'a pas l'impression d'être prise au sérieux par le SPVM. Le Devoir a contacté le SPVM pour comprendre ce qui se passe avec le numéro de la plainte de Mia. Une porte-parole indiqué que la force policière ne commande pas les dossiers individuels, sauf exception, et ne confirme jamais si une enquête est en cours. De tels délais d'attente sont-ils habituels? Lorsqu'invité à répondre à cette question, le SPVM a indiqué que l'assignation d'un enquêteur à un dossier spécifique est faite par un contrôleur selon un ordre de priorité qui dépend de plusieurs facteurs, dont ceux-ci, la présence de victimes mineures, des événements survenus en milieu institutionnel, des comportements de prédation, un risque de récidive ou le contexte général de l'événement. Il est question aussi d'un film qui fait rêver toujours, La magie d'Amélie Poulain, véritable phénomène à sa sortie, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, porté par Audrey Tautou, continue d'enchanter 25 ans après sa sortie et François Lévesque nous en parle. Et finalement, à la une du Journal de Montréal, des éducatrices dénoncent de fausses formations de secouristes, certificat bidon en garderie. Quelques minutes et 35 $ en argent comptant, c'est tout ce qui a été requis pour que des éducatrices en garderie et en milieu scolaire obtiennent une certification en secourisme sans avoir suivi la formation obligatoire qui devrait durer 8 heures. Derrière ce stratagème se cache une seule et même compagnie, Formation et Midi-Soins du Québec, dirigée par un individu nommé Toufik Eid.
T'aurais peut-être besoin de moi. J'y arrive plus avec tout ça. Tu es perdu, je suis brisé. Peux-tu m'aider à me rappeler la couleur du bonheur, c'est quoi? Un peu pour moi. Tu pourrais repeindre le noir qui me colle à la peau chaque soir. Penses-tu que le vent a changé de bord, me suivre tout le temps? J'ai les joues usées à force de jouer des sourires pour les gens. J'ai de tremble et si fort en dedans. J'ai l'impression que ça empire. Plus tu en sais, moins je respire. Aurais-tu un remède pour moi? Quelque chose pour m'endormir moins tard? Penses-tu changer de pas, me suivre tout le temps. J'ai les jambes usées, à force de jouer, de sourire pour les gens. J'ai le temps usé, à force de trembler, si fort en dedans.
Les joues usées, une chanson de Maud Audet.
Une chanson tirée de son nouvel album intitulé « Que ta lumière » qui vient tout juste de sortir. Chronique avec Yvan Deslauriers, des églises converties en salles de pickleball.
Bien, oui. Est-ce que, Hélène, vous avez déjà touché au pickleball?
Touché, non. Joué, non plus.
D'accord. Vous avez
Mais j'ai déjà mangé des pickles, par exemple. Mais ça n'a rien à voir, je pense.
Vous avez touché à une balle, probablement. Donc, vous vous approchez. Vous avez aussi chanté, au moins chanté dans des églises,
Oui.
J'ai déjà été là. Alors, donc on met tout ça dans la même marmite et c'est un peu le sujet de l'article que je vais vous présenter ce matin. C'est un article que j'ai trouvé dans Le Devoir qui a été publié le 19 mars sous la plume de Jean-François Nadeau. Ça s'intitule « Des églises converties en salles de pickleball ». L'église montréalaise Saint-Clément, inoccupée depuis 15 ans, est au nombre des projets de reconversion. L'église Saint-Clément est l'une des plus imposantes de Montréal. Elle sera transformée, c'est dans le Hochelaga-Maisonneuve. Elle sera transformée pour accueillir des terrains de pickleball. Trois entrepreneurs québécois entendent redonner vie à cette église et à d'autres, en les transformant en centres sportifs branchés. L'imposant bâtiment est inoccupé depuis 15 ans. Le terrain à l'arrière, qui est un espace relativement étroit, doit accueillir 147 logements sociaux sur 9 étages. Pour y parvenir, il faudrait idéalement démolir la sacristie, explique Mathieu Riendeau, qui est de la corporation Mainbourg. Des ouvriers sont à sonder les murs pour envisager cette démolition. Sous l'enseigne Amen Pickleball, Amen comme la fin d'une prière.
Oui, on avait compris.
Oui, non, mais c'est parce qu'en lisant, je me dis, ça pourrait vouloir dire Amen quelque chose, là, mais non, c'est la fin d'une prière. Amen Pickleball.
A-M-E-N,
oui. Oui, c'est ça. Une première église a déjà été transformée, un bâtiment des années 1950 à Chambly. Jean-Martin Bisson, qui est membre du trio d'investisseurs, explique qu'on trouve désolant ce qui arrive aux églises au Québec. Elles se ferment, se dégradent et les programmes publics de restauration sont abandonnés par le gouvernement. Ça n'a pas de sens. Environ 800 églises, quand même, se trouvent aujourd'hui fermées, à vendre ou en reconversion. Certaines ont été transformées en logements, en bibliothèques, en centres d'escalade ou en musées, souvent au prix d'interventions majeures. Le pari d'Amen Pickleball repose au contraire sur une transformation minimale des lieux. Les vitraux, les plafonds, les volumes intérieurs et plusieurs éléments d'origine de l'église, très Saint-Cœur de Marie, ont été conservés. On a même gardé le nom de l'église, souligne toujours Jean-Martin Bisson. Jean-Martin Bisson, il est connu, semble-t-il, pas par moi, mais il est connu surtout jusqu'ici comme concepteur de saisons des séries télé Love Story et Occupation double.
Mm-hmm, des téléréalités.
Dans la nef, trois terrains de pickleball ont été aménagés sur un revêtement élastomère inspiré de ceux utilisés dans les tournois professionnels. Ça, c'est du côté de Chambly. Du côté de Saint-Clément, il y en aurait sans doute cinq. Sport en pleine croissance, la pickleball combine des éléments du tennis, du badminton et du ping-pong. Facile d'accès, peu exigeant et résolument social, il attire un public intergénérationnel. Et c'est précisément cette dimension communautaire que les promoteurs cherchent à retrouver en s'appuyant sur la symbolique du lieu. À l'église Saint-Clément, les travaux s'annoncent plus compliqués. L'eau a fait des ravages considérables, comme a pu le constater le devoir. Le mur de la façade est largement fissuré. L'eau s'est accumulée au sous-sol. Le bâtiment n'est plus chauffé. Alors, toujours Jean-Martin Bisson nous dit, « Si nous sommes autorisés à aller de l'avant, notre priorité sera d'assurer que les lieux soient chauffés et sécurisés afin qu'on puisse préserver le site. » Encore un autre hiver comme ça, et ça risque d'être la catastrophe. Dans les espaces attenant aux églises d'Amen Pickleball, les activités communautaires subsistent. Des réunions des chevaliers de Colombes se tiennent encore à l'église de Chambly. Mon père en faisait partie, souligne Jonathan Sanson, qui est un autre membre du trio d'investisseurs. Partout où on s'installe, on veut préserver cet ancrage local. La formule prévoit que les chœurs seront transformés en aires de détente. Le mobilier d'origine, notamment les bancs en bois de chêne, est récupéré et adapté. On sert café, jus et boissons non alcoolisées dans une ambiance feutrée baignée de jazz.
Il n'y a pas de chant grégorien.
On pourrait le proposer.
Oui, jazzé.
Ça me semble être un concept ouvert. Peut-être que vous pourriez vous proposer comme chanteuse, peut-être.
Ah, je ne sais pas.
Ou une chorale, encore. Un peu comme un club des années 1950, dit Sanson. Au fond, l'esprit du lieu évoque un peu ce que serait le pickleball dans l'univers de la série télévisée Mad Men, qui avait lieu dans les années 50. En fait, la série télévisée elle-même n'était pas dans les années 50, mais elle représentait cette époque. Un espace est également aménagé pour les enfants, où ils peuvent s'amuser avec des jeux vidéo des années 80. Et quand j'ai lu cette phrase-là, ben, je me dis, ben oui, mais on est au pickleball, donc ça doit être le jeu Pong. Vous savez, quand dans l'ordinateur, on avait comme une palette de ping-pong, puis il fallait retourner une balle. Au Jubé, un espace réservé aux membres propose casiers, zones de repos et bars à jus avec vue plongeante sur les terrains. L'orgue, en revanche, n'a pas survécu au projet. Faute d'intérêt pour sa récupération, il a dû être retiré. À Saint-Clément, il était déjà disparu. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'église de Chambly, nous dit Jonathan Sanson. On a refait les fenêtres, vérifié le système de chauffage. Pour Saint-Clément, si le lieu peut être sécurisé au cours de l'été, l'ouverture est projetée en 2027. C'est quand même pas loin, c'est l'an prochain. Stefano Marone, qui est j'espère que j'ai pas massacré son nom.
En tout cas, vous l'avez fait avec cœur.
Oui, c'est beau, hein? Et le directeur général de la Corporation immobilière catholique romaine de Montréal. Il voit d'un bon œil le projet Saint-Clément. C'est certain que ce serait l'idéal. C'est très intéressant. Bien sûr, on ne pourra pas transformer toutes les églises comme ça, mais c'est une solution créative. Le prix de la vente n'est pas public. L'argent de la vente va servir à restaurer l'église Très-Saint-Nom de Jésus située non loin de là. Elle a besoin de travaux urgents. À Chambly, la vente du site s'est amorcée à la fin de 2024 par un changement de zonage et de vocation. Le prix de la transaction n'a pas été dévoilé, les lieux étant affichés à 950 000 $ lors de la mise en marché. Les interventions envisagées par Amen Pickleball sont conçues pour prolonger la vie des édifices sans en altérer le caractère. Dans le cœur de l'église de Chambly, un élégant dallage noir et blanc remplace désormais l'ancien revêtement, un linoléum usé à la corde. Il va falloir faire pareil avec l'église Saint-Clément. Pour les terrains de jeu, plusieurs couches de caoutchouc sont appliquées selon les standards du tennis professionnel. À la fin de chaque période de jeu, une sonnerie de cloche retentit. On aurait voulu que ce soit la cloche du clocher, mais ce n'était pas possible. Le modèle économique d'Amen Pickleball repose sur les abonnements et une fréquentation régulière, mais l'équation demeure fragile. S'il y avait une recette simple, tout le monde la ferait déjà. Souvent, au Québec, les églises rachetées par des promoteurs sont promises à la démolition pour faire place à des projets immobiliers. Nous, c'est l'église qu'on voudrait garder, fait valoir M. Bisson devant l'église de Chambly. Au cours des prochains mois, les abords seront réaménagés. On y installera notamment des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le groupe prévoit déjà d'autres implantations selon un modèle de franchise. À terme, une dizaine de centres pourraient voir le jour. Le projet le plus ambitieux du groupe reste de transformer l'église Saint-Clément. Celle-ci comprend entre autres d'imposants vitraux signés Guido Dincheri. Majestueux, le bâtiment se distingue par sa voûte singulière et par une volumétrie extérieure particulièrement affirmée, caractéristique des grandes paroisses du début du 20e siècle. Le projet d'Amen Pickleball repose sur une intuition simple. Pour survivre, les églises doivent recommencer à vivre au cœur même des communautés qui les ont édifiées. Alors, un beau projet à suivre. Moi, j'aimerais bien aller jouer au pickleball à cet endroit-là, qui part l'année prochaine.
On vous comprend, mais c'est une idée inusitée quand même. Hein? Et j'espère que les vitraux seront bien protégés parce qu'une balle est si vite arrivée.
Oui, mais les balles de pickleball, je pense pas que ça fasse...
Ah, c'est encore drôle! En tout cas, quand vous allez y aller, ben vous nous en parlerez. Merci!
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Slow.
Mathieu rit de la chanson.
Non, je ris pas de la chanson. J'ai été surpris par la chanson.
Oui. Succès de 1983. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Monique?
Pas vraiment, non.
Yvan?
Je pense qu'il a quitté.
Il est parti. Oui, il est parti jouer au pickleball.
Est-ce que je devrais être surpris?
Ben non, je sais pas. Non, c'est parce que Mathieu découvrait la chanson pendant qu'elle jouait et il trouvait ça rigolo. Il faisait son compte rendu sur la manière d'interpréter de Paula Moore. Alors, on y va avec votre chronique, chère Monique. Cultiver la fibre québécoise, un texte de Raphaël de Rome que vous avez trouvé dans Québec Science, ce numéro d'avril-mai 2026.
Exactement. Alors, acheter, porter, jeter et on recommence. Toujours plus rapidement, le plus souvent... Ben avec des vêtements de piètre qualité, faits de fibres synthétiques, dérivées du pétrole et venues de l'autre bout du monde. Alors, à l'heure du développement durable, on peut imaginer que c'est un non-sens pour Marie-Ève Faust, qui est professeure à l'École supérieure de mode de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de la mode responsable. Depuis plusieurs années, Marie-Ève Faust milite pour faire connaître les fibres locales québécoises. On pense à la laine, au lin, au chanvre et à l'asclépiade. Elle a co-dirigé la rédaction du livre « Tisser l'avenir vers une mode québécoise responsable » qui est paru l'an dernier aux presses de l'Université du Québec. Et cet ouvrage collectif raconte en fait la riche histoire des fibres textiles québécoises et imagine une industrie locale qui utiliserait des textiles produits ici, de l'agriculture à la couture. Un jour, Richard Simon, du grand magasin La Maison Simon, a demandé à la professeure Marie-Ève Faust ce qu'elle considérait comme notre ADN textile québécois. L'ADN, c'est bien masculin, pardon. Elle n'osait pas lui répondre, car tout ce qu'elle pouvait voir, c'était le polyester. Alors, il lui semblait qu'on devrait être meilleur que ça au Québec, car on ne peut pas cultiver le coton. Alors, que pourrait-on faire? Elle a fondé l'antenne québécoise du mouvement Fiber Shed. C'est un mouvement qui a été fondé par la formatrice, autrice et productrice de teinture naturelle américaine, Rebecca Burgess. En 2010, cette dernière s'était lancée le défi de se vêtir à partir de fibres cultivées, tissées, teintes et cousues dans un rayon de 150 000 de chez elle. Malheureusement, elle ne nous dit pas, Hélène, si elle a réussi, mais peut-être y travaille-t-elle encore. Le but de Fiber Shed, c'est de soutenir et partager le savoir-faire régional et le savoir collectif dans la filière textile et habillement. Au Québec, on veut développer des projets viables sur le plan écologique, social et économique. Parce qu'actuellement, ici, il n'y a que la fourrure qui est produite, transformée et cousue de A à Z. On peut se demander si le milieu de la mode est intéressé par les fibres locales. Madame Faust nous dit qu'il y a un appétit, mais tout le monde demande combien ça coûte.
Bien oui.
Parce qu'en mode, chaque sou compte.
Le nerf de la guerre.
Le nerf de la guerre, malheureusement. Alors, en 2022 et 2023, Fiber Shed a organisé deux journées de réflexion avec 70 personnes de l'industrie. Deux priorités ont été désignées. Mieux caractériser notre laine et déterminer quelle fibre végétale serait la plus prometteuse et ce qu'on pourrait faire avec cette dernière ou ces dernières. Parallèlement à la situation, relativement à la situation de la laine au Québec, il faut savoir, Hélène, qu'on a 29 races de moutons, mais pas de mérino. C'est une race reconnue, on le sait mondialement, pour la qualité de sa laine. Nos moutons sont élevés pour leur viande ou leur lin.
Leur laine? Ah, leur lin aussi.
Leur laine, pas du tout valorisée. Madame Faust a fait une tournée des éleveurs et tout le monde lui a dit la même chose. Notre laine a mauvaise presse. Les gens n'en veulent pas.
Ah.
Alors la tonte, Hélène, ça coûte 5 $ par animal. Et la laine qu'on obtient à la suite de cette tonte, elle vaut même pas ça. Donc, écoutez-moi bien, on la jette, on la brûle, on l'enfouit. Alors, il y a une c'est fou, hein? Ça fait mal au cœur. Il y a une ressource qui est là, mais qui est gaspillée. On peut se demander légitimement pourquoi il en est ainsi. Alors, il semble qu'il y a une multitude de raisons. Mais la principale, c'est qu'on pense que notre laine est trop grossière, qu'elle pique. Il y a aussi beaucoup de fausses barrières, comme les gens pensent que les lois environnementales québécoises ne permettent pas de laver la laine, alors que c'est faux. Enfin, la province ne compte plus aucune usine pour laver ou carder la laine. Il ne reste que deux filatures, l'usine de fil. Tout ça n'aide pas, on s'en doute bien, à valoriser l'usage de notre laine. En utilisant les fibres de certains élevages québécois, la professeure Faust a découvert que certaines laines d'ici sont plus fines et donc moins piquantes qu'on pensait. Par exemple, la littérature prédit un diamètre moyen de 72 microns pour la fibre de mouton Romanov. C'est une des races présentes ici. Mais Mme Faust arrive, elle, à 30 ou 40 microns. Alors, je vous explique, le micron, c'est le diamètre de la fibre. Elle est considérée comme très douce à moins de 20 ou 22 microns. Alors, la professeure nous dit que ce sont les premières analyses. Elle n'en a pas fait une multitude parce que ça coûte très cher. Mais ça démontre l'importance d'y aller de manière rigoureuse au lieu d'y aller à tâtons ou à partir de simples impressions. Alors, avant de dire que notre laine n'est pas bonne, ben ça vaudrait vraiment la peine d'explorer ce qu'on a entre les mains. Alors, on peut aussi dire que même une laine grossière pourrait être valorisée. On n'a qu'à regarder du côté de l'Écosse. Là, ils font des kilts, des couvertures, le fameux Harris Tweed. Alors, on peut faire une jupe ou un manteau avec une laine grossière.
Certainement.
Il suffit juste d'y ajouter une belle doublure. Ensuite, il y a toute la question de marketing. On pense aux bottes en peau de mouton UGG qui viennent d'Australie. Tout le monde en achète. Alors qu'ici, les abattoirs et laines ne savent pas quoi faire avec les peaux.
Et c'est choquant d'entendre ça.
C'est vraiment choquant. Alors, bien sûr, outre la laine, le Québec produit des fibres végétales comme le lin, le chanvre et l'asclépiade. Parmi celles-ci, lesquelles sont les plus prometteuses? Ben, le lin et le chanvre sont celles qui poussent très bien au Québec. On a le climat qu'il faut. Mais actuellement, elles sont cultivées pour leurs graines et leur huile. On dit que la fibre serait plus payante par ailleurs. Mais encore faut-il avoir l'équipement pour la récolter et la transformer. Alors, on apprend que ce sont des fibres extrêmement longues. Elles mesurent presque un mètre, ce qui nécessite des équipements adaptés. Pour les adapter, en effet. Donc, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des investissements pour transformer la fibre. L'asclépiade a aussi du potentiel. C'est une fibre isolante, très légère. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore réussi ni à la filer, ni à la tisser. Donc, ça va surtout servir comme isolant. Toujours selon Marie-Ève Faust, on constate une ignorance généralisée face aux fibres qui nous habillent et à leur provenance. En effet, on connaît pas ou peu nos matières. On ne s'habille pas avec les bonnes matières selon les saisons. C'est ce que nous dit en tout cas Mme Faust. En plus de cette méconnaissance, il y a une surabondance de vêtements à bas prix. Alors comment convaincre les gens d'acheter moins mais mieux? Le Québec peut se distinguer en produisant quelque chose d'unique. Le tweed écossais ou les chandails de laine finlandais ou norvégien ont un certain prix, mais les gens sont fiers de ces produits-là et de les porter. Et plus les gens en veulent, plus on est capable d'en produire grâce aux économies d'échelle. La recherche vise donc d'abord à caractériser les fibres, car c'est seulement en sachant vraiment ce qu'on a qu'on pourra déterminer ce qu'on peut en faire. Elle peut aussi aider à repenser la filière textile dans une perspective de circuit court, d'économie circulaire et d'achat local. Malheureusement, la demande de financement pour un projet de recherche de 7,8 millions sur 4 ans, ce qui n'est pas énorme, visant la laine et le lin avec plus de 20 partenaires au dossier. On pense à des cégeps, des universités, filatures, producteurs ovins, des gens dans l'industrie de la mode, a été refusé par un des conseils subventionnaires. Mais Marie-Ève Faust ne perd pas espoir et le resoumettra, ça va de soi. En terminant, Hélène, un petit rappel sur les ravages de la mode rapide. Au Québec, la quantité de vêtements jetés et enfouis a doublé en 10 ans, passant de 161 000 tonnes en 2011-2012 à 344 000 tonnes en 2023. Seuls 10 % des textiles sont envoyés aux friperies ou recyclés, surtout en chiffon. Je terminerai en vous rappelant que l'industrie textile contribue à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l'aviation et le transport maritime réunis. Alors, chère Hélène, chers auditeurs, auditrices, pensons-y bien avant d'acheter un vêtement à très bas prix et de très mauvaise qualité.
Ah oui. Un texte important à faire lire au plus grand nombre. Merci de l'avoir partagé avec nous. On est Cultiver la fibre québécoise par Raphaël de Rome dans Québec Science.
Êtes-vous toujours là? Steak sur deux pattes. Je me tiens bien droit comme un arbre. J'ai perdu quelques feuilles. Chaque pas, chaque jour nous rapproche un peu plus du cercueil. Chez votre fun, mais la journée de demain s'annonce chaude. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. C'est pas une question de qui, c'est une question de temps. Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre. Alors que la maison brûle, on fait comme tout le monde. Tous les jours, je veux plus entendre. L'enfer c'est pas les autres, ton voisin ou la gauche, mais celui qui fait du profit à te laisser dans l'eau chaude. Alors que la maison brûle sous un soleil de plomb. Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre. Alors que la maison brûle, on fait comme tout le monde. Tous les jours,
la journée va être chaude.
Et c'est là-dessus que je vous souhaite une belle journée, que je vous remercie, chers collaborateurs du jeudi, Monique Kirouac et Yvan Deslauriers. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et vous serez là encore plus longtemps. Vous allez reprendre votre chronique Les Brèves là, à 10h15.
Avec plaisir, Hélène.
Au revoir, merci.
Merci, Hélène.
Bon, alors devant moi, il y a une chroniqueuse qui vient faire son tour au printemps. C'est le 43e défi sportif Altergo qui commence dans 2 semaines exactement.
Exactement.
Et donc, on poursuit notre compte à rebours avec Émilie Bouchard-Labonté, qui est directrice générale adjointe d'Altergo. Bonjour à vous.
Bonjour Hélène.
J'imagine que l'excitation monte.
Oui, puis c'est avec vous chaque semaine que je réalise qu'il y a une semaine de moins avant le défi sportif. Donc, la semaine passée, c'était 3 semaines. Puis là, c'est 2 semaines. Puis on n'est pas en mode panique, là. On va être prêts. Il y a encore beaucoup de choses à faire, là. Mais je vous confirme que l'effervescence est là. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cette édition du défi sportif Altergo puis toutes ces nouveautés qui ont apparemment.
Justement, parlant de nouveautés, Émilie, vous avez un nouveau slogan cette année.
Exactement. On passe de « Tout part d'ici » qui nous accompagnait dans les dernières années à « Tout devient possible ». Donc, on entend un petit peu la succession des idées là-dedans, surtout avec le « tout ». Donc, « Tout devient possible ». C'est important pour nous de l'amener ailleurs un petit peu puis de le poursuivre parce que tout devient possible pour nous. Ce qui résonne, c'est que ça incarne l'essence même du défi sportif Altergo. C'est un événement où chaque personne, peu importe son niveau ou sa limitation fonctionnelle, peut pratiquer un sport, découvrir de nouvelles disciplines, repousser ses propres limites de la relève jusqu'à l'élite. Donc, tout devient possible. C'est plus qu'une compétition. Le défi, on le dit souvent, c'est un lieu de rencontre, de dépassement, autour de laquelle on construit aussi une communauté inclusive.
Oui, tout devient possible. Ça nous donne de l'énergie, de l'espoir et puis de la force également.
Exactement, puis de démontrer à peu près tout le potentiel qu'on peut avoir quand on participe au défi sportif en tant qu'athlète, en tant que bénévole, en tant que personne qui organise tout ça. Donc, pour nous, ça résonne à plusieurs niveaux.
Très bien choisi. Et puis, les athlètes ambassadeurs que vous avez choisis cette année représentent bien ce message, finalement.
En effet, chaque année, c'est pas nouveau, on a tout le temps 5 athlètes ambassadeurs qui, de la relève à l'élite pour lesquels on veut mettre de l'avant, puis qu'on veut toujours qu'il y ait un petit lien avec les défis sportifs et avec notre thématique. Donc, je suis très heureuse de vous les présenter cette année. Tout d'abord, Chloé Pellant-Lambert, qui va nous représenter le volet scolaire, qui sera des compétitions d'athlétisme. On a aussi Éloïc Constantino, un joueur de para-hockey, Alison Levine en boccia, Mélanie Labelle en rugby en fauteuil roulant et Karl Marquis en curling en fauteuil roulant.
Alors, faisons un peu plus de connaissance avec eux. Commençons par la relève avec Chloé Pellant-Lambert.
Absolument. Chloé Pellant-Lambert, c'est une histoire très touchante qui résume vraiment l'esprit du défi sportif à Targo quand je dis que tout devient possible. Elle participe au volet scolaire depuis sa première année au primaire et cette année, c'est son tout dernier sportif au niveau scolaire puisqu'elle est maintenant en secondaire 5. C'est une athlète qui a une limitation visuelle. Elle va compétitionner dans les compétitions d'athlétisme au du volet scolaire. Donc, elle a 3 épreuves à son programme, la course, le lancer du poids et le saut en longueur. Et c'est une habituée du défi sportif Altergo, comme je le disais, mais elle a touché plusieurs sports aussi quand elle est venue au fil des années, dont la natation où elle a remporté plusieurs médailles. Donc, elle aimerait bien ça répéter l'exploit, mais en athlétisme. Puis, ce qu'elle aime le plus du défi sportif, Chloé, c'est la motivation à bouger que ça lui apporte et les cérémonies d'ouverture, parce que c'est quand même quelque chose à venir vivre, une cérémonie d'ouverture du volet scolaire du défi sportif.
J'en ai entendu parler.
Bien oui, j'espère.
Je vais y aller cette année.
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai hâte de vous faire vivre ce beau moment-là. Et ce qui est très beau pour Chloé, c'est que c'est elle qui nous a approchés l'année dernière pour nous dire « J'aimerais ça être athlète ambassadrice pour mon secondaire 5 pour terminer mon parcours au défi sportif Altergo. Je suis sûre que je serais une très bonne représentante entre vous et moi, Hélène. » Ça a pris 30 secondes et on était conquis.
Ah oui, ça tombait sous le sens.
Exactement.
Autre jeune athlète prometteur, Éloïc
oui.
Constantino.
C'est un athlète en para-hockey. Il joue en para-hockey depuis 4 ans. Et c'est sa mère qui a découvert le sport un peu par hasard, par Facebook. Au moment où Éloïc jouait au hockey debout, mais ça devenait un peu trop exigeant pour lui en raison de sa limitation. Et dès son premier essai, ça a été vraiment le coup de foudre. Aujourd'hui, il est âgé de 16 ans. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine, joue avec différentes équipes, participe à des tournois un peu partout au Québec, en Ontario, même aux États-Unis. Puis ce qu'il adore vraiment, lui, de son sport et de participer aux défis sportifs, c'est l'esprit d'équipe puis les liens qu'il crée avec d'autres jeunes qui vivent un peu les mêmes réalités que lui. Puis son plus beau souvenir au défi sportif Altergo, c'est sa médaille d'or qu'il a remportée l'année dernière. Puis un moment qu'il rêve de revivre cette année.
On lui souhaite. Un athlète très expérimenté maintenant, Karl Marquis.
Oui, Karl Marquis, qui est un de nos athlètes qui a la plus longue longévité, on dira pas son âge, là, mais qui a la plus longue longévité avec le défi sportif Altergo. À l'époque, il est devenu paraplégique, en fait, à l'âge de 15 ans en raison d'un accident de ski alpin. Mais c'est à ce moment-là qu'il a découvert le parasport, donc le paraathlétisme, et qu'il a participé aux défis sportifs à cette époque-là. Puis après ça, à 3 Jeux paralympiques quand même en paraathlétisme. Mais il a pris sa retraite par la suite et s'est tourné vers une autre carrière en parasport, celle en curling en fauteuil roulant, qui a vraiment contribué à bâtir au Québec. Maintenant, présentement, il est capitaine de l'équipe de Magog, souvent médaillé en championnats provinciaux. Il va faire partie de l'équipe du Québec cette année qui va essayer de remonter sur le podium puisque le Québec avait remporté une médaille d'argent l'année dernière au championnat canadien au défi sportif, dans le cadre du défi sportif Altargo. Puis pour lui, le défi sportif Altargo, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Son leadership, c'est lui qui nous a permis d'amener le championnat canadien à Montréal, à Boucherville pour la première fois. Mais c'est, comme je disais, son histoire avec le défi sportif remonte vraiment avant ça dans sa carrière de paraathlétisme. Puis il avait été un de nos athlètes ambassadeurs en 2006.
OK.
Donc il y a 20 ans.
Pierre Marquis, un vieux de la vieille.
Un vieux de la vieille.
Et du côté de l'élite internationale, impossible de passer à côté d'Alison
Levine.
Je suis toujours mêlée. Mais
elle me chicane tout le temps. Elle me chicane tout le temps quand j'ai Levine.
Qui prononce mais c'est Levine.
C'est Levine.
Pour ce qui concerne Alison.
Exactement. Donc, parce que sinon, elle va me chicaner si on dit autrement.
On ne peut pas se faire chicaner.
Puis, c'est vraiment une athlète exceptionnelle. Je suis vraiment ravie de l'avoir parmi nos athlètes ambassadrices cette année. Autant par son palmarès ultra impressionnant sur la scène internationale que par son engagement. Alison, son histoire comme paraathlète remonte à plusieurs sports avant d'arriver à faire du boccia. Elle a fait de l'équitation, du basketball en fauteuil roulant, du rugby en fauteuil roulant, mais qui est encore son sport préféré, mais avec sa limitation fonctionnelle qui, malheureusement, est dégénérative. Elle ne pouvait plus faire ce sport-là, donc s'est tournée vers le boccia. Avec un palmarès très incroyable, plusieurs années plus tard, championne du monde, plusieurs médailles en Coupe du monde et triple paralympienne. Donc, c'est pas n'importe qui.
Non, résiliente, Alison Levine.
Puis au-delà des résultats, Alison, c'est vraiment une ambassadrice incroyable de son sport puis du parasport. Elle s'implique activement pour améliorer l'accès au sport adapté. Puis justement, elle a reçu le tout premier prix sport et communauté Maxime Gagnon d'Altargo qu'on remet dans notre programme de reconnaissance Altargo. Alison, c'est quelqu'un qui adore le défi pour les rencontres, pour la relève puis l'intensité des compétitions.
Et finalement, votre athlète ambassadrice en rugby en fauteuil roulant, elle s'appelle Mélanie Labelle.
Mélanie Labelle, la dernière et non la moindre. Elle a toujours été sportive. Elle a déjà pratiqué par le passé la natation, le plongeon, le soccer, du ultimate frisbee. Bref, elle aime encore beaucoup bouger. C'est en 2016, alors qu'elle se consacrait à la danse, qu'elle a fait une chute un peu dramatique qui l'a rendue tétraplégique.
Ah, oui.
Puis dans centre de réadaptation, elle a découvert le rugby en fauteuil roulant. Puis dès son premier essai, elle a fait « OK, ça, c'est mon sport. C'est mon sport qui va me permettre de continuer de grandir, de me créer une nouvelle communauté qui va plus me représenter maintenant. » Ça fait 10 ans maintenant. Puis elle joue au sein de l'équipe du SUVA à Montréal, de l'équipe provinciale, des équipe nationale. Elle agit aussi comme entraîneur, donc un parcours qui l'a vraiment... un sport qu'elle a découvert qui a vraiment changé son parcours. Et elle a contribué à plusieurs succès d'ailleurs de l'équipe nationale. Puis je peux en parler la semaine dernière. Ça va être un tout premier championnat canadien féminin de rugby en fauteuil roulant. C'est beaucoup grâce à elle qu'on peut accueillir cet événement. J'ai vraiment hâte de l'avoir en action.
Et à vous entendre, vous êtes entourée de gens très engagés pour porter votre message.
Oui, puis en terminant...
Tout devient possible.
Tout devient possible. Puis en terminant, je veux juste souligner à quel point on est extrêmement reconnaissant d'avoir ces personnes-là qui nous accompagnent puis transmettent nos messages. Et je vais terminer par souligner le soutien indéfectible de nos 5 porte-paroles. Chantal Petitclerc, qui est porte-parole avec nous depuis presque 30 ans maintenant. Jean-Marie Lapointe, porte-parole avec nous depuis 25 ans. Hugo Girard, ça fait maintenant 9 ans qu'il porte nos messages. Nancy Audet, ça fait plus de 5 ans, 6 ans maintenant qu'elle est porte-parole. Amy Kerr-Guerrier, qui est avec nous depuis 4 ans. Donc, leur engagement est vraiment précieux pour faire rayonner notre mission. Puis, je tiens à les remercier, d'utiliser ma tribune pour les remercier.
Oui, merci, merci. Merci beaucoup aussi à vous, Émilie. Rappelons que le défi sportif Altergo aura lieu du 23 avril au 3 mai 2026 à Montréal, Longueuil et Boucherville. Et nous, Émilie, on va se retrouver la semaine prochaine afin que vous nous fassiez découvrir un nouveau pan de cette 43e édition. C'est mardi, la semaine prochaine qu'on va se rencontrer.
J'y serai là, mardi. Merci, Hélène.
À bientôt. Les parasports et puis une entrevue avec Marguerite Blais ainsi que Guillaume Nadon. Restez avec nous.
Vous alors, écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Désolée, je t'ai pressée d'aller à la rencontre de l'ami Dominique Tremblay pour sa chronique parasport. Mais tout juste avant, j'ai une petite rectification à faire parce que j'ai dit que Émilie, pour le défi sportif Altergo, sera avec nous la semaine prochaine, mardi. Non, ce sera jeudi, mais c'est l'heure qui a changé. Ce sera à 10h40, tout de suite après la chronique parasport de Dominique. Et puis le mardi, ce sera la semaine d'après, soit le 21 avril, que Émilie sera avec nous. Bonjour, Dominique.
Merci beaucoup. Bonjour, ça va bien?
Oui, merci beaucoup. De
merci
quoi?
Pour merci beaucoup pour l'information. C'est noté.
Pas de
donc,
quoi.
Je vais laisser le sujet du défi sportif pour les 10 prochains jours à Émilie. Et évidemment, on va se parler du défi sportif quand les compétitions vont commencer.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, Dominique, vous nous parlez de basketball en fauteuil roulant.
Oui, le mois d'avril est probablement le mois le plus occupé et important pour les différents clubs de basketball en fauteuil roulant, que ce soit au Québec, Canada, aux États-Unis et même en Europe. Donc, au Québec, le championnat provincial de basketball en fauteuil roulant va avoir lieu du 10 au 12 avril à Sherbrooke, au centre sportif de l'Université Bishop. On va avoir les finales dans les catégories mini basketball, donc pour les athlètes qui ont moins de 16 ans, et les différents clubs dans les divisions 1, 2 et 3, donc 1A, 2A et 3A. La finale canadienne des clubs qui regroupe les meilleurs clubs là, des quatre différentes conférences canadiennes, soit le Québec, l'Ontario, il y en a cinq, les Prairies et la Colombie-Britannique vont se retrouver en Alberta pour disputer les finales de clubs la fin de semaine prochaine. Et aux États-Unis, eux, ils ont commencé un petit peu plus de bonheur au mois de mars. Il y a eu les finales de clubs masculines et intercollégiales et juniors au mois de mars. Et en fin de semaine, il y a les finales pour les clubs féminins. Et en Europe, il y a beaucoup de ligues, soit en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Turquie, par exemple. Et les meilleurs clubs se regroupent pour gagner le championnat d'Europe des clubs. Et il y en a trois divisions, donc ça va jouer tout le long des fins de semaine au mois d'avril. Le basketball en fauteuil roulant est probablement le sport pour personnes handicapées qui est le plus organisé depuis très longtemps.
Ah oui, il y en a partout de ces compétitions. Qu'est-ce qui démarque le basketball en fauteuil roulant des autres sports paralympiques, Dominique?
C'est surtout, comme que je viens d'en parler, j'ai été un petit peu trop vite, l'organisation. Le sport existe vraiment depuis 1900, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et les équipes se sont organisées au Canada et aux États-Unis dans les années fin des années 40, début des années 60. Il y avait deux équipes au Canada, une à Montréal et une en Colombie-Britannique. Évidemment, comme le pays est très grand, ils s'affrontaient surtout dans des compétitions aux États-Unis et aussi en Angleterre. Et comme ça, et la première fois que le sport d'équipe est apparu aux Jeux paralympiques, c'était le premier sport d'équipe. Il a eu lieu en 1960 à Rome pour les hommes et en 1968 à Tel Aviv en Israël pour les Jeux paralympiques. Pour les femmes, ont eu leur première compétition à ce moment-là.
OK. Mais le sport a vu le jour, vous disiez, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40.
C'est ça, oui. Bon, tout juste à la fin mettons, à l'entour de 1947-48, aux États-Unis et en Angleterre, la première compétition pour personnes handicapées a eu lieu à Stoke Mandeville, au centre de réhabilitation. Ça a été dirigé par le docteur Ludwig Gottman et lui qui a fondé les Jeux paralympiques. Avec des compétitions de tir à l'arc en même temps que les Jeux olympiques de Londres en 1948. Mais il y a aussi le basketball qui a pris son envol aux États-Unis et en Angleterre pas très longtemps après ça, mm-hmm, pour permettre aux ceux qui avaient été blessés durant la guerre d'être actif et de faire des activités là, pour les remettre en forme.
Et quelles sont les grandes différences entre le basketball en fauteuil roulant et puis le basketball sans fauteuil roulant, le régulier?
C'est surtout, bon, évidemment, le basketball en fauteuil roulant, on ne saute pas, donc il n'y a pas de dunk ou de tir enfoncé, là, comme on appelle en français, évidemment. C'est surtout un sport de position, donc la position qu'on tient sur le terrain, et ça, c'est important. Il y a aussi le système de classification, évidemment, parce que chaque handicap est différent et chaque joueur est dépendant de son handicap et donner un pointage. Et les 5 joueurs sur le terrain doivent égaler, dépendant de la ligue et du niveau, 14 ou 15 points. Par exemple, ceux qui sont amputés d'une jambe, leur classification équivaut à 4,5. Et les gens l'handicap le plus sévère, leur pointage de classification équivaut à 1. Et on doit avoir, tous les 5 joueurs, une accumulation de 14 points sur le terrain pour pouvoir jouer à 5 joueurs. Et évidemment, la dernière chose, en basketball, en fauteuil roulant, on ne marche pas, mais on ne peut pas donner plus de 2 coups de roue avant de dribbler avec le ballon. Donc, c'est les grosses différences là, entre le sport aux personnes handicapées, donc en fauteuil roulant, et ceux qui jouent au basketball régulier, par exemple, dans la NBA aux États-Unis et à Toronto.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, expliqué ce sport, le basketball en fauteuil roulant. Ça nous donne envie de suivre un peu plus les compétitions. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Dominique?
Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.
Tu sais, j'ai jamais trouvé le temps, pourtant j'y ai bien souvent pensé. J'ai gardé au chaud tous les petits bouts de papier qu'il me restait. J'ai regardé les heures défiler sans jamais vraiment savoir pourquoi. Ni comment je t'avais laissé me manquer tout ce temps-là.
C'était « Arrêter le temps » de Vendredi sur mer avec Sofiane Pamard.
Et j'ai le plaisir de parler avec Marguerite Blais. Est-ce qu'elle a besoin de présentation? Personnalité publique qui a été ministre responsable des aînés des proches aidants. Et elle vient de publier un livre intitulé « Marguerite Blais, au nom des aînés, en compagnie de Guillaume Nadon, ancien attaché politique, maintenant coordonnateur du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Et c'est Marguerite Blais qui est au bout du fil. Êtes-vous au Salon du livre de Québec, Madame Blais?
Pas actuellement, mais j'y serai en fin de semaine, samedi et dimanche.
D'accord.
J'y serai sur l'heure du midi, là, comme samedi, c'est de midi à 13h30 et dimanche, c'est 11h30.
Bon. Alors, vous allez à la rencontre de vos lecteurs, vos lectrices. Avant de parler du livre...
Potentiel aussi.
Pardon?
Potentiel.
Oui, oui. Des gens qui vont s'intéresser à vous et à votre livre, j'en suis convaincue. Mais justement, avant de parler du livre, dites-nous dans quelles circonstances ce projet à deux, parce que vous l'avez écrit en collaboration avec Guillaume Nadon, est-il né?
Écoutez, la suite de la pandémie et lorsque j'ai pris ma retraite de la politique en 2022, je me suis rendu compte que j'avais fait vraiment une dépression profonde et il y avait vraiment un malaise. Là, je me sentais extrêmement coupable de ne pas avoir été en mesure de sauver autant de personnes aînées qui étaient décédées des suites de la pandémie, de la COVID. J'avais reçu des menaces de mort, les trolls se faisaient aller, etc. Et j'ai croisé Guillaume qui m'a dit, écoute, pourquoi t'écrirais pas un livre? Je dis, non, je suis pas capable, je me sens pas bien, je me sens pas assez forte pour le faire seule. Et de fil en aiguille, j'ai dit, Guillaume, ce serait bien, il y aurait toute une symbolique intergénérationnelle. Guillaume Nadon aura 30 ans le 7 mai. Et bon, on a 45 ans de différence, mais il y a quand même beaucoup de connaissances au niveau des aînés ayant fait sa maîtrise au niveau des politiques et programmes qui concernent les aînés au Québec. Alors, c'est comme ça que c'est commencé. Je vais poser des questions, puis pose des questions et j'écris très, très longtemps. Et parfois, il donne son opinion aussi. Alors, c'est intéressant de voir l'opinion d'un jeune versus une personne qui est vieille, là, qui aura 76 ans. Et ça fait la démonstration aussi que c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut se couper du reste de la société. Bien au contraire, il faut rester ancré dans la société avec toutes les générations.
Mm-hmm. Marguerite Blais, qu'est-ce qui vous intéresse tant chez les aînés? D'où vient cet amour pour les personnes âgées? C'est depuis toujours?
C'est depuis mon papa, je dirais, qui a voué un culte extraordinaire à sa mère. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 10 ans. Elle avait un cancer généralisé. Mon père était avec elle à tous les jours. Changeait ses draps, marchait de la petite Bourgogne jusqu'à Pointe-Saint-Charles. Il n'y avait pas d'automobile parce que sa mère ne voulait pas qu'il y ait une automobile. Elle avait peur aux accidents. Mon père avait 41 ans. Et par la suite, je crois que ça vient au départ d'un milieu familial, mais j'ai commencé à travailler à la radio de Radio-Canada avec une chronique quotidienne sur les personnes âgées. On les appelait le troisième âge, le bel âge, l'âge d'or. Après ça, c'était le quatrième âge, etc. Et j'ai fait partie d'un comité sur les abus à l'endroit des personnes âgées en 1987. Donc, il y a eu une suite, un concours de circonstances. Et quand on m'a demandé de faire de la politique, c'était pas tellement l'engagement pour le parti politique qu'un engagement social. Et Jean Charest avait promis un ministre des aînés. Alors, dans mon esprit, je convoitais ce poste, mais ça veut pas dire que parce que je le convoitais, je l'aurais. Mm-hmm. J'ai été élue et je l'ai eu. Et l'histoire a fait que j'ai été pendant 12 ans, un peu plus de 12 ans en politique. Donc, dont plusieurs années comme ministre des aînés dans deux gouvernements différents.
Oui, et on voulait vous nommer ministre attitré, vous vouliez être nommé ministre responsable des aînés et des proches aidants. Ça, c'est pour le troisième mandat, je crois.
Ça, oui, parce que j'étais retournée en politique à l'âge de 68 ans, alors que j'étais à la retraite. Le but était réellement pour faire avancer les dossiers qui touchent les proches aidants. J'avais été proche aidante de mon mari. Je savais combien les gens souffraient. Je donnais des conférences, je parlais de mon histoire avec mon mari, puis je voyais les gens dans la salle pleurer, pas à cause de mon histoire, mais parce que mon histoire était leur histoire.
Oui.
On vit les mêmes histoires. Alors, je me suis dit, c'est incroyable. Alors, j'ai écrit un livre avec, je l'ai terminé avec Rosette Pipard et c'était l'année électorale en 2018 et je disais au gouvernement, pas au gouvernement, mais au parti politique, il faut absolument vous engager envers les proches aidants. les proches aidants qui travaillent. Il y en a qui meurent avant la personne aidée. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de reconnaissance, si peu. Alors, je suis retournée en politique et j'ai eu la chance de faire la politique et le plan d'action pour les proches aidants et la loi. Il y a une loi maintenant qui vient encadrer la reconnaissance des proches aidants. Maintenant, c'est au futur et au présent politicien de faire avancer le dossier, mais on est une société vieillissante, hein?
Oui.
21% de la population est âgée de 65 ans et plus. Donc, les proches aidants, parfois, ce sont des jeunes, hein, des enfants, des ados qui s'occupent de leurs parents. Puis, il y avait des parents qui avaient des enfants en situation de handicap qui n'étaient pas reconnus non plus comme proches aidants. Ce sont aussi des proches aidants, des parents et des proches aidants, des gens parfois qui doivent quitter le travail pour s'occuper à temps plein d'une personne malade. Alors, c'est un dossier qui m'apparaît essentiel. Et si on a voulu sortir le livre très rapidement, c'est parce que la conclusion du livre Au nom des aînés, le dernier, c'est que ça prend maintenant un ministère totalement dédié au vieillissement aux personnes âgées.
Ouais.
Il ne peut plus être dans le ministère de la Santé. Les personnes qui vieillissent ne sont pas toutes des personnes malades.
Mais est-ce que vous avez espoir qu'on vous entende, qu'on fasse quelque chose de plus, que le dossier, que le ministère soit plus reconnu et qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne plus d'argent parce que justement on est une population vieillissante et que la prochaine danse, ça a ses limites?
Ben, s'il n'y a pas un parti politique qui s'engage pour ça, j'espère que les 21%, là, 1,8 million de personnes âgées de 65 ans et plus en forme, là, parce qu'il y en a 2,3 dans les CHSLD, 2,3%, on va faire une parade de casseroles. Là.
Oui.
Il faut que...
C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là, mais oui, ça prendrait ça.
C'est parce que, regardez, là, je suis en forme, moi, je vais avoir 76 ans, je fais des taxes, des impôts, je suis pas retirée de la vie. Tu sais, la question de l'âgisme, la question de la perception quand on est à la retraite, c'est comme si on se retirait de la vie. C'est comme si on n'était plus utile. Il me semble que vieillir, c'est pas une maladie, c'est un privilège, puis c'est un art, l'art de pouvoir vieillir et de pouvoir influencer aussi les générations montantes. Et puis, on a aussi un devoir de respect envers les plus vulnérables. On a parlé beaucoup des aînés vulnérables pendant la pandémie, mais est-ce qu'on en parle maintenant? Pas si souvent que ça.
Mm-hmm.
Seulement quand il y a des choses là, terribles qui arrivent au niveau de la maltraitance ou au niveau de ce matin, là encore, il y avait une histoire de personne de 90 ans, là, 99 ans qui a reçu une lettre comme quoi elle avait un médecin de famille.
Oui.
Alors, dans un CHSLD, là, on est soigné, on reçoit des soins. Là. Mais autrement, on n'en parle pas souvent. C'est pas un sujet c'est pas un sujet qui je veux dire...
Qui est sexy.
Entre guillemets. Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est pas sexy. Puis on n'a pas apprivoisé la mort, puis on a de la misère avec le vieillissement. On n'apprivoise pas le vieillissement, alors que c'est aussi une belle étape de la vie, le vieillissement.
Oui, vous trouvez que c'est une belle étape. Il y en a qui trouvent que c'est quelque chose d'épouvantable. J'entendais, je pense que c'était Ginette Renault là, qui va avoir bientôt 80 et puis qui trouve que c'est extrêmement difficile, qu'elle préfère la jeunesse à la vieillesse. Mais à un moment donné, il faut pas se mettre la tête dans le sable aussi, là, non plus.
Je vous dis pas que je préfère la vieillesse à la jeunesse. Là. Tu sais, je veux dire, on voudrait tous être jeunes là, puis revenir en arrière, mais c'est pas possible.
Mm.
Mais un des phénomènes intéressants avec le vieillissement, en tout cas dans mon cas, ben, tu sais, je m'enfarche plus dans les fleurs de tapis comme auparavant. Et puis certains petits détails, maintenant, ça n'a plus la même importance, tu sais.
Faites la part des choses, vous relativisez avec votre expérience.
Oui, puis je veux plus en vouloir à personne. Je veux pas perdre de temps sur ces choses-là. C'est pas important. J'essaie de faire du bien autour de moi. J'essaie d'être souriante. J'essaie de profiter à chaque instant de la vie qui passe. Alors, on a une autre approche. Quand on est jeune, on veut réussir sa carrière, on veut réussir sa famille, on veut tout réussir, on travaille comme des fous. Puis en vieillissant, ben, on fait des choix aussi.
Et Marguerite Blais, dans votre livre, je me demandais, parce qu'on apprend plein de choses, et je me demandais l'objectif de ce livre-là, est-ce que c'était de remettre les pendules à l'heure, faire mieux comprendre le fonctionnement de la machine politique, parce qu'on va dans les coulisses et il y a quelque chose de très intéressant, de passionnant, ou vous vouliez aussi proposer des solutions à un ensemble de tout ça, là?
Ben c'est tout ça. C'était thérapeutique au départ. Par la suite, on connaît pas tant que ça les rouages de la vie interne au niveau politique. Comment ça se passe à l'Assemblée nationale, les amitiés, les gens me rencontraient. Ton garde du corps, Marguerite, il dort où?
Ben oui, vous en aviez un. On apprend ça que vous en aviez même deux à temps plein. Là. Chaque ministre a ses gardes du corps.
Oui, absolument. Un qui prend la relève le mercredi jusqu'au mercredi suivant, c'est-à-dire la journée du Conseil des ministres. Alors, je disais aux gens, quand ils me posaient la question, il dort où ton mari? Ben, je disais, entre mon mari puis moi. Pas ton mari, mais ton garde du corps.
Oui, oui.
Je disais, entre mon mari et moi, puis on riait, tu sais.
C'était mais, presque la réalité.
C'est presque la réalité. Puis il y a le message aussi. Mais il y a surtout que, malgré que ce soit tellement dur pour les politiciens, là, c'est une vie infernale. Oh, et de oui. nos jours, avec tous les réseaux sociaux, c'est la nouvelle qui est analysée à l'instant même. Tu sais, il y a des gens qui ont peur d'aller en politique. Ils se disent pourquoi leur donner autant de temps et d'énergie.
Est-ce que ça vaut la peine d'y aller?
Ben écoutez, regardez la démocratie à travers le monde, elle va tellement mal. Si on veut vraiment qu'il y ait des actions concrètes, comme pour les proches aidants ou pour les personnes en situation de handicap ou pour l'économie ou pour l'éducation, il faut s'engager. C'est le seul endroit où on peut déposer des politiques, des plans d'action, faire adopter des lois aussi. Alors moi, j'encourage les jeunes et les moins jeunes d'y aller en politique, tu sais, parce que sinon, notre démocratie va mourir. C'est pas très fort à travers le monde, là, ce qui se passe, là.
Ça, alors, tout le monde est d'accord avec vous.
Malgré la dureté de la politique, je crois que ça en vaut la chandelle. Mais vous savez, je pense que c'est l'un des rares métiers où tu es choisi par des électeurs dans ta circonscription, mais que tu es aussi mis à la porte par les mêmes électeurs.
Mm-hmm. C'est vrai.
C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est dichotomique parce que tu es élu, tu es choisi, mais en même temps, en partant, c'est 50 % de la population qui ne t'aime pas.
Oui. Mais être artiste aussi, c'est ça. On peut devenir très, très populaire puis à un moment donné, perdre cette popularité-là. Et si je me concentre sur un des chapitres où vous parlez de la COVID-19, la pandémie, qui a été un moment critique particulièrement pour les aînés, vous le disiez tantôt, vous êtes rendu compte que vous avez fait une dépression en lien avec toute la situation catastrophique où on a perdu beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui sont mortes dans des CHSLD abandonnés. Vous aviez reçu des menaces de mort. On vous faisait porter le blâme, le dieu des décisions qui étaient prises à l'égard des aînés. Et dans le chapitre sur la COVID-19, on sent que c'est un chapitre qui a été difficile, j'imagine, à écrire parce que ça a été un chapitre de votre vie qui a été difficile à vivre.
Oui, c'est un chapitre qui a été très difficile parce que, vous savez, quand on fait partie d'une équipe de hockey, on joue en équipe. Hein?
Ouais.
Et puis, c'est pas toujours ton choix. C'est le choix du coach ou c'est le choix. Les aînés étant dans le ministère de la Santé, il y a beaucoup de décisions qui étaient prises d'un point de vue hospitalo-centrique, comme quand on a pris la décision de préparer les hôpitaux. Je ne blâme personne, mais c'était à la lumière de ce qui se passait en Italie puis dans d'autres endroits où les hôpitaux étaient bondés. Chez nous, on n'a pas vu là qu'il y avait le feu prenait dans les CHSLD. Là. Et puis, j'étais pas d'accord avec le fait qu'on empêche les proches aidants d'entrer. J'étais en désaccord avec le transfert des personnes âgées des hôpitaux au CHSLD parce que j'avais peur à la contamination. Mais vous savez, tout le monde a fait son possible. On connaissait pas ce virus-là. C'était partout à travers le monde. Il n'y avait pas de médicaments. C'était difficile.
Il y avait la fameuse image là, de l'avion qu'on construisait en plein vol. Là.
C'est vrai. Ouais. Moi, je me souviens, là, écoutez, il y avait un sous-ministre à la Santé qui, la nuit, achetait du matériel pour protéger les employés, puis le matériel était détourné, là, c'est vrai, là, l'avion avait été se déposer aux États-Unis, le matériel avait été détourné. Pourquoi il y avait, des gens disent, mais pourquoi il n'y avait pas de matériel? Ben, c'est parce que c'était une époque où on achetait, comme on dit en anglais, just in time, donc on ne stockait pas trop de matériel. D'une part, parce que ce matériel-là, à un moment donné, devient périmé rapidement. mais aussi parce que c'était comme ça partout, là. Partout. Donc, tout le monde cherchait du matériel de protection à travers le monde. Et puis, ça a été... Puis, en plus, on avait la vétusté des CHSLD. Comment voulez-vous protéger des personnes qui partagent des toilettes, qui partagent une salle de bain? C'était comme impossible. Des employés qui ont une cuisine qui est grande comme un garde-robe... Alors,
il y a eu beaucoup de prises de conscience des prises de conscience difficiles, des décisions aussi qui sont pas faciles à prendre, mais je pense que la plupart des gens ont fait de leur mieux. Là, on cherchait pas à tuer personne. La préface est signée par la regrettée Béatrice Picard, qui est décédée à l'âge vénérable de 96 ans. En quoi Béatrice Picard vous a inspiré, Marguerite Blais?
Ben, écoutez, j'ai été la marraine des petits frères des pauvres entre Juliette Huot et Jean Besserie.
Oui.
Béatrice a été la marraine des petits frères des pauvres pendant à peu près 20 ans, je crois. Moi, ça a été un organisme que j'ai toujours soutenu. Même quand j'étais pas ministre, j'allais passer les Noëls avec les petits frères au centre Sheraton à l'époque. Alors, je voyais fréquemment Béatrice Picard. On mangeait à la même table, on allait voir les aînés. Quand je suis redevenue ministre, Béatrice est encore là. On vivait encore les Noëls ensemble. On vivait plusieurs occasions ensemble. Alors, je trouvais que c'était important qu'on ait aussi cette autre génération, ces trois générations dans le livre. Béatrice était tellement contente de participer à ce livre-là. Et c'est la dernière, je dirais, action sociale, que Béatrice a fait avant de mourir. Et Guillaume est allé recueillir ses paroles, Guillaume Nadon, et moi, je lui ai parlé au téléphone. Des journées, elle était bien, d'autres journées, elle était moins bien. Mais elle était surtout tellement attristée de ne pas pouvoir être sur les planches jusqu'à l'âge de 100 ans.
Oui, c'était son rêve de mourir sur les planches. Mais elle a quand même fait son métier jusqu'au bout, pas 100 ans, mais presque. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser, Marguerite Blais. Si ça vous tente de devenir chroniqueuse aînée dans mon émission, moi, je vous accueillerai à bras ouverts.
Ben, écoutez, vous me faites une proposition publique, là.
Ben oui, mais on se parlera peut-être de façon personnelle. Ça me tentait de faire ça parce que moi, j'ai bien connu votre mari à l'époque où j'étais à Rock Détente, Jean-Guy Fauché, qui était directeur musical et que j'ai trouvé extrêmement sympathique, qui avait un sens de l'humour, et ça m'avait fait beaucoup de peine d'apprendre qu'il était malade. Alors, Marguerite, je vous souhaite la santé, puis un bon salon du livre.
Puis on se reparle pour la chronique, on sait jamais.
Avec grand plaisir.
Merci pour cette belle entrevue.
Merci à vous, Marguerite Blais, au nom des aînés, publiés aux éditions Libre Expression. À une prochaine.
Merci.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Mathieu. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. À bientôt.